Bonjour Guillaume Larrivé.
Bonjour Frédéric Rivière.
Quel regard avez-vous porté et comment avez-vous trouvé les deux premiers débats de la primaire de la gauche ?
À 97 jours du premier tour de la présidentielle, je crois que le paysage de cette élection se dessine à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui se rejoignent. Nous assistons à une espèce de duo de Dupont et Dupont de l'extrémisme qui sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quant à la gauche socialiste, elle est atomisée façon puzzle avec Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, mais aussi Emmanuel Macron, qui sont, je crois, les quatre enfants terribles de François Hollande et peut-être les héritiers, malgré eux, du bilan cataclysmique des années Hollande.
L'adversaire le plus redoutable pour François Fillon va-t-il, selon vous, sortir de la primaire de ce que l'on appelle la belle alliance populaire ou s'agit-il d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, ma conviction, c'est que seul François Fillon, aujourd'hui, incarne l'homme d'État qui a la solidité et le sérieux dont la France a besoin. Emmanuel Macron est un garçon sympathique, mais je crois profondément qu'il n'est pas préparé, qu'il n'est pas prêt à assumer demain la charge régalienne de l'État. Il n'est pas le chef de guerre dont la France a besoin pour gagner la paix. Et je suis frappé notamment d'une chose, Frédéric Rivière. Je crois qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une certaine naïveté et d'une vraie fragilité face au djihadisme. Il n'a pas compris la nature du terrorisme, il n'a pas nommé l'ennemi qui est l'islamisme totalitaire. Contrairement à Emmanuel Macron, je ne pense pas que la société française ait une part de responsabilité. Part de responsabilité, ce sont ces mots. Dans l'émergence du djihadisme, parce qu'un terroriste islamiste, ça n'est pas une victime de la société française, c'est un criminel ennemi de la nation.
Vous lui reprochez quoi ? Une forme de naïveté ou de culpabilité dans cette affaire ?
J'ai lu Révolution, j'ai écouté aussi ce qu'Emmanuel Macron a dit lors de son discours en Allemagne et j'ai la conviction qu'il n'a pas compris, il n'a pas analysé, il n'a pas saisi ce qui se passait. Nous assistons aujourd'hui à un retour du tragique de l'histoire et face à cela, face aux attaques subies par la France et par l'Europe, face à la mondialisation du djihadisme, il est nécessaire de réarmer l'État nation et je constate qu'Emmanuel Macron pêche par naïveté et qu'il a, face au djihadisme, en effet cette fragilité qui serait très préoccupante, je crois, très directement, qu'il n'est pas prêt, il n'est pas préparé à assumer dans environ 100 jours la charge régalienne de l'État. Il n'est pas qualifié aujourd'hui pour cela.
Alors vous sortez un livre il y a quelques jours, intitulé « Insoumission » et vous dites « Faisons mentir Houellebecq » dans son livre intitulé « Soumission », celui-là. Michel Houellebecq imaginait une France dirigée par un président islamiste qui aurait remporté l'élection présidentielle. C'est cette perspective-là qui vous inquiète aujourd'hui de manière réelle ?
Houellebecq a énoncé une sorte de scénario catastrophe qui serait celui de la soumission de la France à l'islam politique. Ma conviction, c'est que la responsabilité de ma génération, c'est de tout faire pour éviter ce scénario. Ma génération, c'est celle des Françaises et des Français qui ont à
peu
près
40
ans.
Dans quelques jours, hein,
celle qui est assez ancienne pour avoir un peu d'expérience et celle qui est assez neuve encore pour avoir l'énergie du combat. Notre responsabilité, notre mission, au fond, c'est de réarmer l'État-nation dans toutes ces dimensions. Il faut un réarmement culturel, il faut qu'on apprenne à dire « nous » à nouveau, il faut qu'on assume notre histoire française, il faut qu'on assume notre ouverture sur le monde, mais il faut aussi qu'on soit pas naïf. Et c'est ça la grande différence avec Emmanuel Macron, qui est de la même génération, c'est que, en effet, il faut assumer l'idée qu'un réarmement juridique, opérationnel, est nécessaire. Je plaide,
et idéologique aussi, puisque vous parlez de l'assimilation.
Oui, bien sûr, je pense que l'assimilation n'est pas un gros mot, c'est d'ailleurs, le général de Gaulle, en 1945, qui avait introduit dans le Code civil cette notion comme accès à la nationalité. L'insoumission pour laquelle je plaide, c'est aussi une rupture avec l'immigrationnisme au pouvoir. Hier même, le gouvernement publiait des chiffres 2016 qui démontrent les ravages de l'immigrationnisme au pouvoir. Rien n'est maîtrisé, tout est hors de contrôle. Ce qui devrait diminuer ne fait qu'augmenter. Ce qui devrait augmenter ne fait que diminuer. Quelques chiffres. Les naturalisations ont augmenté de 30% entre 2012 et 2016. L'immigration légale augmente augmenté de 17%. En 5 ans, ce sont près de 150 000 clandestins qui ont été régularisés. Il y a encore plus de 300 000 clandestins à l'heure où on se parle en France. Et quant aux éloignements vers les pays d'origine, c'est-à-dire les retours, les reconduites à la frontière, elles ont diminué de 33% depuis 2012. Je ne veux pas accabler nos auditeurs avec ces chiffres, mais oui, il y a bien une différence entre François Hollande et ses héritiers, Emmanuel Macron compris, et la droite française autour de François Fillon, qui veut en effet réussir l'insoumission pour que vive la nation.
Alors pour vous, l'autre péril qui menace la France, vous l'expliquez dans votre livre, c'est le Front National et une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, qui est, dites-vous, l'héritière de Georges Marchais.
Mais je pense que nous ne pouvons abandonner la France ni à des conquérants islamistes qui détestent totalement notre pays, ni à des intrigants nationalistes qui ne l'aiment plus vraiment. Et ces intrigants nationalistes, ce sont au fond les marinistes, les partisans de Marine Le Pen, qui sont, c'est vrai, aujourd'hui les héritiers de Georges Marchais, c'est-à-dire une espèce de copie à peu près conforme de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que le projet économique, fiscal, social de Marine Le Pen est complètement dément. Il n'y a pas d'autre moyen pour ruiner très rapidement notre pays. Je pense qu'il est temps que nous l'expliquions, il est temps que nous le démontrions. Le projet de Marine Le Pen est un projet profondément antinational, c'est-à-dire contraire aux intérêts des Français, et notamment contraire aux intérêts des Français qui sont les plus fragiles. Je pense notamment aux ouvriers qui font face à certaines conséquences funestes de la mondialisation. Loin d'être protégés par Marine Le Pen, ils seraient fragilisés.
Alors, puisque vous parlez de mondialisation, un rapport de l'organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam, paru hier, révèle que 8 milliardaires dans le monde détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit 3 milliards 500 millions de personnes. Est-ce que ça n'est pas ça un sujet dont tous les candidats à la présidentielle devraient se saisir ?
Le sujet de la pauvreté est à l'évidence
un sujet du décalage invraisemblable entre les plus riches et les plus pauvres.
Le sujet des inégalités, bien sûr, mais plus encore le sujet de la pauvreté. Vous avez en France environ 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est ça le désastre social. C'est ça la catastrophe sociale qui est le fruit d'un certain nombre d'années, d'erreurs, de politiques économiques, de choix fiscaux absolument désastreux. Vous savez, il y a une règle assez simple. À force d'augmenter les impôts, à force d'augmenter les charges, à force de contraindre, de désespérer tous ceux qui veulent créer, qui veulent travailler, qui veulent progresser, ont produit de la casse sociale. Et François Fillon, d'ailleurs, en est complètement conscient. Il va s'efforcer, et l'équipe qui l'entoure, c'est ce à quoi nous travaillons, de remettre la France en marche, de remettre la France d'aplomb,
si j'ose dire. En marche, faites attention à ce que vous dites.
Non, mais nous voulons remettre la France en marche, et personne n'en a évidemment le monopole. Plus sérieusement, la casse sociale, c'est la réalité du Parti Socialiste au pouvoir. Et notre job, si dans quelques semaines nous revenons aux affaires, ce sera de tout faire pour que les entreprises, et notamment les petites entreprises, aient plus de marge de manœuvre pour créer à nouveau des richesses. C'est pas théorique, c'est très concret. Moi, je le vois en Bourgogne tous les jours. Ouais.
D'un mot, très rapidement, en tant que sarkozyste, parce que vous l'êtes, hein, vous n'avez pas renié votre filiation, vous vous sentez bien traité par François Fillon? Parce que certains se sont un peu émus du traitement qu'il leur a réservé.
Je suis un homme libre. Ouais. J'ai aimé travailler aux côtés sous la direction de Nicolas Sarkozy pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est en toute liberté que je suis aux côtés, derrière François Fillon, pour qu'il gagne la présidentielle, parce que je crois tout simplement que c'est l'intérêt de la France. Donc je suis très à l'aise dans mes baskets ou dans mes mocassins.
Merci Guillaume Larrivé. Merci. Bonne journée.